Et il est midi et demi, l'heure donc du journal de la mi-journée sur Europe 1 et avec vous, Fabienne Lemoelle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Hier, ce qu'on a vu, c'est effectivement peu de manifestants. On a vu des barbares, on n'a pas vu des méchants flics agresser de gentils manifestants.
Propos très fermes de Christophe Castaner ce matin sur Europe 1 au lendemain des violences place d'Italie à Paris. Ce sont en tout 254 personnes qui ont été interpellées en France pour ce premier anniversaire des Gilets jaunes. 173 rien qu'à Paris. Parmi elles, un homme soupçonné d'avoir attaqué la laverie où étaient réfugiés deux policiers. Plus de 300 personnes pour la marche blanche en hommage à Sylvia, cette femme tuée par son conjoint. C'était il y a une semaine dans le Bas-Rhin.
C'était une fille joyeuse, agréable. Et là, je suis vraiment venu pour soutenir et pour dire stop, quoi. Il faut arrêter, quoi. C'est pas normal.
Une marche blanche alors que dans le journal du dimanche, la garde des Sceaux confesse des défaillances du système judiciaire pour prendre en charge les victimes des violences conjugales. Toujours près de 80 000 foyers privés d'électricité en région Rhône-Alpes. De quoi mettre en colère ceux qui n'ont plus de courant dans l'Ardèche depuis 3 jours.
Quand il y avait une panne, les mecs de l'EDF, c'était 24 heures sur 24 qui bossaient. Là, je ne sais pas si les mecs d'Enedis, c'est des sous-traitants tout ça, alors ils s'en foutent.
Côté météo, en tout cas, il y a un temps d'hiver, c'est ce que nous dira Valérie Darmon. Le journal des sports avec le 100e match de Didier Deschamps comme sélectionneur ce soir à Tirana pour Albanie-France. Et puis à 12h45, je reçois l'historien Bruno Cabanne. Il décrypte les photos saisissantes des réfugiés sur la route de l'exil depuis la Première Guerre mondiale. Un regard qui nous éclaire sur le débat actuel autour de l'immigration.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des voitures incendiées, des abribus saccagés et la place d'Italie noyée dans un nuage de gaz lacrymogène, c'est l'une des images que l'on retiendra du premier anniversaire des Gilets jaunes, avec des groupes de casseurs et de black blocs qui ont aussi dégradé le monument en hommage au maréchal Juin. Ce sont en tout 173 personnes qui ont été interpellées à Paris, 254 sur l'ensemble de la France, chiffre donné ce matin sur Europe 1 par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a aussi été très ferme après les violences de la place d'Italie.
Hier, ce qu'on a vu, c'est effectivement peu de manifestants, mais par contre des brutes, des voyous, qui étaient venus pour se battre, pour en découdre avec les forces, pour empêcher les pompiers d'agir et de préserver quelquefois des vies. On n'a pas vu des méchants flics agresser de gentils manifestants. On a vu des barbares. Mais ce sont aussi des imbéciles. Vous savez, on peut être à la fois imbécile, brut et voyou. Hélas, certains n'ont pas le monopole. Par exemple, ces policiers pourchassés qui se réfugient dans une laverie. Ouais. Un des deux auteurs a été interpellé, je m'en réjouis. Et en même temps, ça me permet aussi de saluer le sang-froid de nos policiers. Vous avez vu ces scènes de cette violence-là? Ils sont attaqués dans la laverie, ils sont armés, ils ne sortent pas leurs armes. Et ça, c'est ce qu'au fond les policiers font, et les gendarmes, tous les jours.
On vient d'entendre les mots très fermes de Christophe Castaner, qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos ce matin, après les scènes de violence, entre autres place d'Italie à Paris. À quoi ressemble le quartier ce midi? On retrouve sur place Caroline Baudry. Et ce sont des riverains sous le choc que vous rencontrez depuis ce matin, Caroline.
Oui, ici, des dizaines de personnes s'approchent, sidérées, du jardin saccagé au centre de la place. Le monument dédié au maréchal Juin y a été vandalisé. Et pour Étienne et Annette, qui habitent autour, c'est incompréhensible.
J'arrive pas à comprendre. Ça va de tout à n'importe quoi, d'un monument aux morts, des vitrines, des panneaux de pub, pour les transports en commun. Alors on parle de services publics, mais on les casse.
Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est ce déferlement de violence. Quoi dire d'autre?
De son côté, le maire du 13e, Jérôme Coumet, se dit triste et en colère face à l'étendue des dégâts. Il répète avoir signalé à la préfecture la présence de travaux sur la place.
Je m'interroge du choix de la place d'Italie, qui était le lieu de 3 chantiers très importants. J'avais alerté la préfecture de police sur le sujet. Je pense qu'on aurait pu déterminer un meilleur lieu, parce qu'il y avait du matériel à prendre, du matériel qui pouvait servir de projectile ou pour être incendié. Et donc, c'est ce que je regrette.
Dans une note datée de jeudi que nous avons pu consulter, la préfecture avait demandé au service de voirie de la ville la sécurisation de l'itinéraire, et notamment l'enlèvement de tout ce qui pouvait servir de projectile.
Caroline Baudry, place d'Italie à Paris. Et je vous rappelle donc ce chiffre donné ce matin sur Europe 1 par Christophe Castaner. 173 personnes interpellées à Paris, 254 sur l'ensemble de la France hier.
Europe 1, midi 34, la suite du journal, Fabienne Lemoelle.
Repose en paix, justice sera faite. C'est derrière cette banderole que près de 300 personnes sont venues rendre hommage à Sylvia, cette femme de 40 ans tuée dimanche dernier, 131e femme tuée par son conjoint cette année. Et en tête de cortège dans les rues de Oberhofen-sur-Moder, il y avait sa fille, Stella Charlotte Bechler.
Oui, Fabienne, les participants sont venus vêtus de rose, la couleur préférée de Sylvia. Ils ont marché une petite demi-heure de la mairie jusqu'à son domicile. Là-bas, dans un calme absolu, proche et anonyme, y ont déposé des photos, des mots et surtout des roses. Jean connaissait bien la victime, c'était une amie de son ex-femme.
Je n'accepte pas ce qui s'est passé, quoi, en fait. Tuer, enlever une vie comme ça, elle ne méritait pas, quoi. C'était une fille joyeuse, agréable. Et là, je suis vraiment venu pour soutenir et pour dire stop, quoi, il faut arrêter, quoi. C'est pas normal.
À l'arrière du cortège, il y a Patricia. Elle ne connaissait pas Sylvia, mais a connu elle aussi les mêmes violences conjugales. Elle s'est sentie concernée et se devait d'être là.
Il m'a battu plusieurs fois. J'ai jamais porté plainte. J'avais toujours honte et je pensais toujours, et vraiment j'aimais mon mari et je voulais pas lui faire de la peine. Je suis vraiment, vraiment à la place de cette fille, hein, parce que honnêtement, à un doigt, j'aurais été pareil. Hein.
Muriel est venue en famille d'une commune voisine. Elle est en larmes.
Nous venons avec ma maman et ma sœur. En soutien à cette femme qui est décédée par un crime horrible. On ne peut pas justifier un tel crime, dire qu'il s'agit d'un acte d'amour, ce n'est pas possible.
La famille de Sylvia n'a pas souhaité s'exprimer, mais elle est reconnaissante de cette mobilisation citoyenne. Les obsèques de la mère de famille auront lieu samedi prochain.
Charlotte Béchler, cette marche blanche qui se déroulait donc à une semaine de la fin du Grenelle des violences conjugales. Et alors que ce matin, dans le journal du dimanche, la garde des Sceaux fait une forme de mea culpa sur les défaillances du système judiciaire pour prendre en charge ces femmes victimes de violences conjugales, même quand elles ont osé parler, Marion Gauthier.
Oui, très clairement, ça ne va pas. L'aveu de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, dans le JDD ce matin, alors qu'apparut l'étude qu'elle avait commandée en juin. L'inspection générale de la justice s'est penchée sur des homicides conjugaux commis entre 2015 et 2016. Le constat est sans appel. 83% des victimes sont des femmes. Les deux tiers ont été tués après avoir porté plainte. 80% de ces plaintes ont été classées sans suite. Parmi les solutions proposées, la formation des professionnels, mais aussi la possibilité de lever le secret médical. Proposition qui laisse sceptique Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme.
Le cabinet d'un médecin, c'est un cadre de confiance. Casser ce cadre de confiance pourrait être extrêmement dommageable par rapport à la prise de plainte éventuelle. Si une femme, on l'oriente de force, j'irai vers la police pour une prise de plainte, elle risque simplement de nier les faits parce qu'il y a des phénomènes d'emprise. On sait aujourd'hui que les médecins sont en première ligne pour détecter ces violences, hein, que ce soit à l'hôpital ou en cabinet, et qu'ils soient en mesure d'orienter ces victimes vers des associations pour qu'elles puissent poser des mots sur ce qui leur est en train de leur arriver, ce serait beaucoup plus intéressant.
Céline Piquic salue une prise de conscience mais attend des mesures concrètes, mesures qui devraient être annoncées lundi prochain, 25 novembre, dernier jour du Grenelle des violences conjugales.
Marion Gauthier. Près de 80 000 foyers toujours privés d'électricité ce matin en région Rhône-Alpes après les chutes de neige de jeudi. Et même si les agents d'Enedis travaillent d'arrache-pied pour rétablir le courant, certains habitants n'ont plus de quoi se chauffer ou s'éclairer depuis près de 3 jours maintenant. C'est le cas à Glin, en Ardèche, où Élise Dangean a rencontré Abel, retraité de 80 ans. Et vous allez l'entendre, très en colère.
Nous n'avons ni électricité, ni téléphone, ni eau. Nous avons 12 à 13 degrés dans les maisons. Et à l'extérieur, il fait 5 ou 6 degrés à peu près. Et d'après le journal, ça ne sera pas rétabli avant lundi ou mardi ou peut-être mercredi.
Comment vous allez faire ?
On va se démerder. On vient coucher ici dans le froid. Et la journée, on est chez notre fille qui habite à La Roche-de-Glin et qui a du courant, elle. Du courant et de l'eau. Alors on va se laver là-bas, on se réchauffe là-bas, on mange là-bas. Je suis fâché contre Enedis qui ne prévoit pas ce genre de choses. Quand c'était EDF, c'était tout à fait différent. Quand il y avait une panne, les mecs de l'EDF, c'était 24 heures sur 24 qui bossaient. Là, je ne sais pas si les mecs d'Enedis, c'est des sous-traitants tout ça, alors ils s'en foutent.
Abel, retraité de 80 ans à Glin, dans l'Ardèche, au micro d'Élise Dangean, et on l'a entendu, très en colère. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'escalade sera pour la première fois inscrite aux Jeux Olympiques l'an prochain. Il faut dire que cette discipline a de plus en plus d'adeptes, ce qui lui vaut un salon tout le week-end à Lyon. Et Jean-Luc Boujon nous démontre, dans une des plus grandes salles de France, que l'escalade, ça ne s'adresse pas qu'aux initiés.
Allez, repose tes pieds sur le mur. Fais comme ça. Voilà, très bien.
La salle Climb Up, 2800 mètres carrés de surface grimpable à deux pas du centre de Lyon. On est en plein après-midi. Et pourtant, la salle est pleine. En 5 ans, le nombre d'abonnés ici a été multiplié par 2. Et rien que l'an dernier, c'était plus 20%. Parmi les nouveaux adeptes, Hélène, 35 ans, elle n'en est qu'à sa 3e séance, mais elle est déjà accro.
C'est très chouette. Ça aide à travailler sur pas mal d'aspects, autant de sa personnalité qu'au niveau physique, avec des muscles qu'on se découvre petit à petit. Aujourd'hui, c'est fait pour monsieur et madame tout le monde. Au niveau du prix de l'équipement, c'est accessible à tout le monde, je pense.
Et effectivement, l'engouement pour ce sport ne se dément pas. Rien que l'an prochain, la société Climb Up va ouvrir une dizaine de nouvelles salles en France. Et le fait que l'escalade devienne discipline olympique pour la première fois l'an prochain donne un nouveau coup de boost, explique François Petit. Champion du monde 97 et patron fondateur de Climb Up.
Depuis 2 ans, on voit un effet waouh sur l'activité. Il y a beaucoup de gens qui viennent tester, ils sont vite fidélisés à notre activité. Nous, on a 47% de femmes chez nous. Maintenant, il y a des enfants à partir de 3-4 ans qui sont chez nous. On a vraiment des murs d'escalade adaptés aux enfants. Donc tout le monde s'y met.
Voilà, l'escalade qui est également devenu le 2e sport le plus pratiqué à l'école derrière le foot. Une progression spectaculaire rendue possible par la multiplication des équipements en ville ces dernières années. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et puis il était le dernier des compagnons de la chanson. Fred Mella est mort hier à l'âge de 95 ans, dernier des 9 membres de ce groupe de chanteurs, le soliste du groupe.
Une cloche sonne, sonne, sa voix déconico, dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico.
Les trois cloches dont on se souvient qu'elle avait été aussi interprétée ce titre avec Édith Piaf, et pour cause, parce que c'est Édith Piaf qui avait écrit ce titre. Elle l'avait enregistré avec les compagnons de la chanson et les avait emmenés avec elle en tournée aux États-Unis. C'était en 1947.
Le journal des sports.
Avec Simon Rubin. Bonjour Simon.
Bonjour.
Allez, on commence avec du football et ce soir, c'est la dernière de l'année pour les Bleus de Deschamps. Mais quel match !
Le dernier match, effectivement, qui compte pour les qualifications à l'Euro 2020. Un match en Albanie et qu'il faut gagner, bien sûr, à Seine, le défenseur Raphaël Varane.
C'est bien sûr un match à gagner. On vient ici pour prendre les 3 points. On veut finir premier du groupe et pour ça, ça passe par une victoire. Donc... On vient ici bien sûr motivé pour gagner. On est l'équipe de France, on est les champions du monde et on aborde chaque match pour le gagner.
Propos recueillis par Christophe Lamarre. Alors gagner le match pour terminer premier, ça on l'a compris, hein, mais terminer premier c'est surtout s'assurer un tirage au sort abordable à l'Euro l'été prochain. Alors c'était tout de même pas si simple, hein, car même en cas de victoire ce soir, il faudra compter sur le faux pas d'une autre grande nation, sans quoi la France courra le risque dès les phases de groupe de l'Euro de tomber sur un ou plusieurs adversaires de premier plan. La réponse avec le tirage au sort le 30 novembre.
Et puis une victoire, ça permettrait de saluer aussi en beauté la centième de Didier Deschamps comme sélectionneur. On passe au rugby, suite et fin de la première journée de Coupe d'Europe aujourd'hui.
3 clubs français sont sur le pont. D'abord Montpellier, favori pour son déplacement au Connacht à 14h. Lyon aura un match autrement plus relevé à Northampton face à l'un des meilleurs clubs anglais. Mais les Lyonnais, exceptionnels depuis le début de saison en top 14, rêvent d'un exploit. Et puis à 16h15, l'affiche du jour, le Racing reçoit les champions d'Europe en titre, hein, les Saracens. Et même si les Racingmen sont en piètre forme en championnat, eh bien ils sont tout de même les favoris de notre consultant Eric Blanc.
Le Racing arrive en fin de compte, je dirais, à la U Arena pour un très gros match, légèrement favori, car les Saracens sont en pleine turbulence. Pourquoi ? Parce qu'on leur a infligé une amende financière pour manipulation de chiffres du fair play financier, c'est 6 millions d'euros, moins 35 points, vous imaginez, en championnat. Ils ont tout de suite répondu en gagnant à Gloucester, mais Itoje, Vunipola ne seront pas là, les internationaux reviennent de la Coupe du Monde. Alors, il y a un coup à jouer pour le Racing et je pense sincèrement que il y a une opportunité, même si on va se méfier de cette équipe anglaise qui a de l'orgueil. Mais aujourd'hui, le plus important pour eux, c'est de rattraper les points, se maintenir dans la première chip, que la Coupe d'Europe. On va bien voir s'ils ont la tête à l'envers, si le Racing est capable d'en profiter devant ses spectateurs. Rendez-vous dimanche à 16h15.
Le coup d'envoi effectivement entre Racing et Saracens à 16h15 aujourd'hui.
Très précis. On termine avec du tennis et de la Formule 1.
La Formule 1 est l'avant-dernier Grand Prix de la saison au Brésil. Alors, plus tellement d'enjeux au classement. Verstappen partira en pôle sur Red Bull. Pierre Gasly et Romain Grosjean, les deux Français, s'élanceront 6 et 7 septième. Et puis en tennis, le Masters de Londres, la finale inattendue entre le grec Tsitsipas, tombeur de Federer, et l'autrichien Dominic Thiem. C'est peut-être enfin la relève au top niveau mondial en tennis. En double hein, d'ailleurs sur le Masters, les Français Mahut et Herbert débuteront leur finale à 16h30. Et puis après cette finale ou ces finales, les regards vont converger vers Madrid avec le début demain de la Coupe Davis, nouveau format à lesquels les Bleus prendront part.
Coupe Davis que nous fera vivre sur Europe 1, évidemment, notre spécialiste tennis Corinne Boulou. Merci beaucoup Simon Rubin. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche. Et aujourd'hui, Valérie Darmon, c'est au programme un temps plus calme mais froid.
Typiquement hivernal, Fabienne, et vous voyez même l'arrivée de chutes de neige à très basse altitude en ce moment, et pour la journée d'ailleurs, jusqu'à demain matin, dans l'Est, et les fortes pluies, même si les vigilances ont été levées, se poursuivent aussi sur le sud de l'Aquitaine, où le risque d'inondation est toujours élevé sur les Landes et le Gers. Voilà le programme, et en cours d'après-midi, on a une perturbation qui vient d'Allemagne, qui va apporter quelques gouttes ou des flocons, donc des 400 mètres d'altitude si vous habitez en Alsace. Ce risque neigeux va persister jusqu'en fin de nuit, pouvant donner 5 à 10 cm de neige. Sur toutes les autres régions, vous avez un temps plus calme, malgré quelques averses ou giboulées ponctuellement possibles. Et il fera plus lumineux et plus sec, surtout de Lille à Châteauroux. Nous restons sous l'influence d'un vaste système dépressionnaire alimenté par de l'air froid en altitude. Et donc, vos thermomètres affichent toujours des valeurs d'un plein mois de janvier, avec des maximales entre 4 à Lons-le-Saunier et 13 degrés à Perpignan. À Paris, 8 degrés cet après-midi, comme à Lille et au Mans d'ailleurs.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, on va revenir sur un débat qui a été relancé par le gouvernement il y a quelques semaines, le débat sur l'immigration. Mais on va le faire avec une démarche originale, celle d'un historien, Bruno Cabanne. Dans un livre qui paraît au Seuil, il décrypte les photos de ceux qui prennent la route de l'exil depuis la Première Guerre mondiale. Un regard très éclairant, il est mon invité dans un instant.
Il est midi 48, le journal de la mi-journée se poursuit à présent avec votre invitée Fabienne Lemoyle.
Et je vous propose de revenir ce midi sur le débat sur l'immigration relancé par le gouvernement et on va le faire à travers des photos, celles de ces migrants qui prennent la route de l'exil et que vous voyez souvent à la une des journaux. Et on va le faire avec le regard d'un historien, Bruno Cabanne, grand spécialiste de la Première Guerre mondiale, titulaire de la chaire de guerre à l'Université d'État de l'Ohio aux États-Unis. Il publie au Seuil un siècle de réfugiés. Bonjour Bruno Cabanne.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir à Europe 1 pour, je dois dire, ce superbe livre de photos.
Merci beaucoup.
Puisque le sous-titre de votre ouvrage, c'est « Photographier l'exil ». On y voit des photos qui empruntent, vous le dites, beaucoup à la peinture. On pense à ces vierges à l'enfant, comme cette femme réfugiée espagnole sur la route de l'exil vers la France, ou ce père portant sous la pluie sa fille en 2015 sur les routes de Macédoine. Des photos qui nous éclairent sur ce débat qui traverse, je disais, la société française. Je vais d'ailleurs revenir sur le titre « Un siècle de réfugiés ». Ça témoigne déjà du fait, Bruno Cabanne, que ces déplacements de population, c'est en fait une constante de notre histoire.
Oui, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et je crois vraiment à la mémoire longue des migrations. C'est le cas pour trois pays, en fait. Le premier, c'est la Grèce, qui, dans les années 20, connaît un accroissement de 20% de sa population avec l'arrivée des migrants. C'est spectaculaire.
C'est ce que vous dites, deux fois plus, en fait, de migrants qui arrivent dans années 20 en Grèce que ce qu'on a vu en 2015.
Bien sûr. Le deuxième exemple, c'est l'Allemagne. 12 millions de réfugiés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et à mon avis, on ne peut pas expliquer l'attitude actuelle des Allemands à l'égard des réfugiés si on ne se souvient pas de ça. Et la troisième chose, c'est la Belgique. C'est un Belge sur cinq qui part à l'étranger au moment de la Première Guerre mondiale, quand la Belgique est envahie.
Donc, et oui, on voit des photos d'ailleurs de Belges arrivant.
Ah oui, des photos extraordinaires d'arrivée de Belges.
Nord,
oui,
à
des photos
Paris.
Stupéfiantes, des gens qui ont vraiment, j'allais dire, la mort dans les yeux. Enfin, ils ont vu les atrocités commises par les troupes d'invasion. Et c'est en fait, je crois, ce qui fascine aussi les photographes. C'est-à-dire qu'ils ont vu des choses que le photographe n'a pas vues et qu'ils cherchent à saisir à travers sa photographie. Voilà. Donc moi, je crois beaucoup à cette mémoire longue. En fait, c'est un peu un livre là-dessus aussi. Hein.
Mémoire longue, Bruno Cabanne, puisque le phénomène s'amplifie en 2019, vous parlez de près de
80 millions de réfugiés déplacés dans le monde. Et en plus, la progression est spectaculaire depuis 4-5 ans.
Mais vous dites aussi que c'est des mouvements qui se font entre pays du tiers-monde, alors que nous, on a ces images qu'on voit d'ailleurs dans votre livre de migrants affluents vers l'Europe.
C'est très important de le rappeler parce qu'effectivement, les réfugiés, c'est à peu près voilà, pour 80% des déplacements d'un pays du tiers-monde vers un autre pays du tiers-monde. Ce qui signifie aussi que ce que les photographes nous révèlent à travers leurs images, c'est très souvent l'arrivée des réfugiés chez nous, mais ça représente une infime minorité des mouvements de réfugiés dans le monde.
Justement, ces photos, Bruno Cabanne, pourquoi elles sont importantes pour vous, l'historien ?
Alors, c'est important pour plein de choses. D'abord, parce que je crois que les photographes humanitaires ont vu des choses très vite que nous, on a mis beaucoup de temps à comprendre, notamment ce grand basculement, qui est le basculement de l'histoire de la guerre au XXe siècle, dans lequel les civils deviennent de plus en plus des victimes de la guerre. Les civils et les enfants. Les enfants, ça représente à peu près 50% des réfugiés. Et cette photographie met justement l'attention sur ce phénomène-là, qui est le grand phénomène, je crois, du XXe siècle.
Et justement, à travers ces photos, qu'est-ce que ces enfants, ces femmes et ces hommes fuient ?
Ils fuient le plus souvent la guerre, et non seulement la guerre, mais le fait que les civils sont devenus des cibles privilégiées de la violence de guerre. Il fuit la famine, qui est une conséquence directe de la guerre, et puis il fuit la pauvreté. Donc, cette distinction, c'est tout ce que disent les... Moi, je ne suis pas un historien de l'immigration, je suis un historien de la guerre, mais c'est tout ce que disent les spécialistes des réfugiés. C'est que la distinction entre migrants économiques et migrants politiques ou migrants liés à la guerre est très difficile à établir. Les choses sont naturellement liées.
Quelle photo vous a particulièrement marqué ?
Il y a en fait trois grands moments moi, qui m'intéressent. Le premier, c'est les années 30, c'est-à-dire, je crois, le grand tournant qu'est la guerre d'Espagne. Et notamment ce moment très particulier, parce que finalement ça se joue sur quelques jours, j'allais dire presque, qui est janvier 1939, c'est-à-dire l'arrivée à la frontière entre l'Espagne et la France de 500 000 personnes. Il faut imaginer ce que ça veut dire. Hein.
Et c'est d'ailleurs la photo de couverture
c'est une photo avec
femme qui porte son bébé avec deux enfants
et
suivi par...
Qui marche avec un air très, très digne. Voilà, je voulais aussi une photographie de réfugiés en mouvement. Ça me semblait important. Donc ces années 30 sont importantes parce qu'on s'intéresse beaucoup, on humanise le plus possible les réfugiés. Le deuxième moment qui me fascine, c'est le moment où les photographies sont faites par les réfugiés eux-mêmes. Alors on en a des exemples récents, mais il y a aussi des exemples tout à fait passionnants et très émouvants au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque d'anciens photographes professionnels photographient des rescapés de l'extermination des Juifs européens, qui se retrouvent dans des camps déplacés en 46-47, un peu partout en Europe. Les photographes saisissent deux choses. La reconstruction des corps à travers le sport. Donc on a beaucoup de photographies d'équipes de football, notamment, dans ces camps. Et puis des photographies de familles. Et pour eux, c'est la promesse d'un avenir. Et la troisième type de photo, ce sont les photos prises en 2015 par des photographes américains. Il y a eu le prix Pulitzer. Et là, ce sont des photographies qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, jouent sur la proximité entre les situations qu'ils photographient et des grands tableaux de la peinture occidentale. Notamment une photographie que je trouve sublime de Sergei Ponomarev qui photographie des réfugiés qui arrivent de la mer et la photographie construite exactement comme le radeau de la Méduse. Et le livre est vraiment un plaidoyer pour photographier différemment les réfugiés.
Et il y a d'ailleurs une série de photos assez marquantes où ce sont des migrants photographiés avec un objet de leur route de l'exil.
Oui, absolument. Il y a un chapitre entier du livre qui est consacré à l'intimité. Notamment à tous les objets que les réfugiés ont emportés avec eux.
Et on part avec quoi généralement ?
On part avec, parfois avec des souvenirs.
Ça peut être une peluche.
Ça peut être un habit, ça peut être parfois la clé de sa maison, ce qui est bouleversant. Dans des régions dont les maisons ont été complètement détruites naturellement, la clé de sa maison. Et puis il y a des aspects beaucoup plus concrets, matériels, c'est-à-dire des médicaments et des téléphones portables. Les téléphones portables sont partout dans les photos. Parce que ça, c'est absolument indispensable. Ce que les réfugiés gardent avec eux, c'est le téléphone portable, qui est naturellement un moyen de rester en contact. Et de se renseigner aussi sur les points de passage éventuels de frontières, sur la météo, sur plein de choses.
Hein. Bruno Cabanne, vous êtes un historien de la guerre. Vous vivez et enseignez aux États-Unis. Oui. Alors, on voit ce débat qui traverse les sociétés européennes. Il est aussi très présent aux États-Unis.
Oui, bien sûr.
On pense bien sûr au fameux mur que Donald Trump veut ériger à la frontière mexicaine. Est-ce qu'on voit ces mouvements, justement, de population aussi dans cette partie du monde ?
Ah oui, bien sûr. On les voit notamment à la frontière avec le Mexique. Je crois qu'il y a 500, 600 000 personnes qui ont été appréhendées récemment. Il y a surtout plus de 70 000 enfants ou adolescents isolés.
Et est-ce que la photographie fait bouger les lignes aussi dans ce pays ?
Non, la photographie ne fait pas bouger les lignes parce que les lignes sont figées par la politique américaine. C'est-à-dire que Donald Trump a fait de cette question des réfugiés un élément central de sa rhétorique, de sa politique. Ce n'est pas dire simplement les réfugiés, c'est cette rhétorique du mur qui est complètement délirante. Enfin, le discours récent qu'il a donné dans lequel il promettait de construire un mur dans un État qui n'était même pas un État frontalier montre bien qu'on est au-delà même de la question des réfugiés. Il s'agit vraiment d'une politique de l'enfermement sur soi. Bon, puis il y a aussi cette rhétorique de la caravane hein, qui a été développée par lui il y a quelques mois.
Parce que ces photos peuvent aussi alimenter la peur.
Bien évidemment, ces photos peuvent alimenter la peur, c'est un des grands risques et je crois effectivement que l'un des enjeux de la photographie, moi je crois à la force des images, je crois aussi à la responsabilité morale, disons-le, des photographes et des agences de presse. Alors, les photographes indépendants, ils font un travail extraordinaire justement pour changer notre regard et c'est très important parce que si les photographies ne nous amènent pas à nous interroger sur le passé et l'avenir de ces hommes et ces femmes qui viennent jusqu'à nous, qu'ils fera. Et justement, cet appauvrissement d'une photographie qui est simplement une photographie représentant des groupes mène aussi, je crois, à un appauvrissement du débat public sur la question des réfugiés. Donc on doit absolument être attentif à cette construction de l'image des réfugiés à travers la photographie.
Merci beaucoup Bruno Cabanne. Je rappelle le titre de ce superbe livre de photos qui nous éclaire vraiment, on vient de l'entendre à travers votre propos sur ce débat autour de l'immigration. Un siècle de réfugiés, photographier l'exil qui vient de paraître au seuil.
Merci.